Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans ce magazine Identité culturelle. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la communauté Nyanga, l'une des 9 communautés de la province du Nord Kivu. Nous parlons de son organisation coutumière, sociale, sa manière de transmettre ses valeurs culturelles aux enfants et même de sa gastronomie. Tout au long de ce magazine, nous serons guidés par des membres de cette communauté habitant Goma. La promotion d'une culture passe par sa langue et les Nyanga semblent l'avoir bien compris. C'est pourquoi ils ont des chants dans leur langue pour toutes les circonstances. Mais avant de parler de la culture Nyanga, Joseph Mushunganya, l'un de nos guides tout au long de cette émission, nous présente l'historique de cette communauté du Nord Kivu. Car si aujourd'hui elle est localisée dans les territoires de Walikale, elle est venue de très loin, comme les Nyanga aiment l'enseigner à leurs enfants.
Les Banyanga, c'est un peuple qui se situe en République démocratique du Congo, et précisément en province du Nord Kivu, dans le territoire de Walikale, précisément. C'est un peuple qui parle la langue qu'on appelle Kinyanga. Le Kinyanga est parmi les langues bantoues de la RDC. Et il y a deux secteurs à Walikale, dont le secteur de Wanyanga, il y a aussi le secteur de Bakano. Pour le secteur de Wanyanga seul, on compte 13 groupements. Les groupements qui sont occupés par les Banyanga sont le groupement Luberike, le groupement Ihana, le groupement Kisimba, les trois groupements Waloa, dont Waloa Uroba, Waloa Yungu, Waloa Loanda. Nous avons aussi le groupement Bafuna, le groupement Utunda, le groupement Banabangi.
Merci beaucoup, Monsieur Joseph Mushunganya. Parlons maintenant de l'historique de ces peuples, Nyanga.
De manière un peu brève, l'actuelle version de l'histoire des Banyanga remonte au Proche-Orient, donc à Mésopotamie. C'est là que on a retrouvé les traces les plus anciennes du peuple Banyanga. Et dans leur migration, ils sont descendus en Égypte. Ils ont séjourné en ces lieux-là pour descendre encore dans la région du lac Tchad. Là, on retrouve même des traces linguistiques des Banyanga. Comme en Égypte, on trouve les Kanga Kumwema en Égypte, Munyanga Kamanura dans la région du lac Tchad. Et après, ils sont descendus dans l'actuelle RDC. Avant d'arriver là, bien entendu, ils ont d'abord séjourné en Ouganda, dans les Bunyoro, à Toro. Il y a un grand site là qui a hébergé, au cours des siècles, bien entendu, le peuple Banyanga, étant accompagné d'autres peuples comme les Bahunde, les Fuliru, les Bashi, les Banande, et tant bien d'autres. Et lorsque nous nous fions à la recherche de Kabila, c'est un jeune chercheur historien chez les Banyanga, il dit que cette migration au niveau de Toro a pris la direction suivante. À partir de Toro, les Banyanga sont passés par la grande rivière Semuliki, qui se trouve dans la région de Banande aujourd'hui. Ils l'ont traversée avec les autres peuples que je venais de citer pour arriver à un autre grand site dans les Buito. Et c'est à partir de là que les Banyanga ont pris la direction de la rivière Mueso. Vous savez que la rivière Mueso va jeter ses eaux dans la rivière Osso, précisément à Pinga. Et en suivant cette direction, en arrivant à Pinga, c'est un nom d'ailleurs du Kinyanga, qui signifie pays des loin, un pays des loin. Mm-hmm. C'est-à-dire, lorsque le peuple arrive à ce niveau-là, ils ont constaté que ils venaient de parcourir une très longue distance C'est pourquoi ils ont baptisé ces lieux Chuompinga en termes traditionnels. C'est à partir de là que on va connaître aussi les différentes ramifications des Banyanga, les différents groupements vont commencer à se subdiviser à ce niveau-là. Les uns ont suivi la rivière Osso, et là vous trouverez des peuples comme les Banyanga de Kisimba, les Bakumbule, bien entendu. Les autres ont pris la direction de Mutongo, et là nous trouvons la formation du groupement Ihana. D'autres ont prolongé vers les eaux de la rivière Loa, et c'est là que nous trouvons les trois groupements, Waloa Uroba, Waloa Loanda, Waloa Yungu aussi. Et d'autres ont pris la direction de Bafuna, de Utunda. C'est là qu'on trouve Mutakato. Mutakato, c'est la capitale de Banabangi. Et voilà un peu leur migration pour occuper l'actuelle grande forêt de Walikale que vous connaissez comme étant la résidence principale de ce peuple Banyanga.
David Amouimbia Bunda, un autre notable Nyanga, donne d'autres explications sur l'historique de ces peuples.
Parmi les ancêtres Nyanga, il y a le Kamanura Munyanga qui était l'ancêtre avant Katuka Mumpoko, qui a amené les Nyanga jusqu'au niveau de Toro. Il était un devineur, ça veut dire deviner les situations.
Et Toro, c'est en Ouganda.
C'est en Ouganda, oui. Il avait déjà deviné que les Nyanga vont suivre une direction jusqu'à aller trouver un pont. Il avait déjà deviné qu'il y aura un pont qu'ils vont rencontrer sur la rivière Loa. C'est beaucoup d'années avant. Et c'est comme ça qu'ils sont partis en suivant cette prophétie. Et ils ont suivi cette direction. Quand ils ont quitté Bwito, ils se sont d'abord installés à Kishali. Et à Kishali, c'est là que notre ancêtre Katuka Mpogo, celui qui les a amenés de Toro, était décédé. Les cadets devraient rester là-bas. Et ce sont ces cadets-là qui sont formés par le groupe qu'on appelle les Bafuna. Ils sont restés là-bas, en train de garder la tombe du roi. Et quand ils avaient déjà le tribalisme entre les groupes de Bafuna qui étaient restés, qui étaient les cadets, qui construisaient les cadets de Banyanga, avec les Hunde qui commençaient à les chasser, que non, vous restez ici, Munafuna. Hein, dans les termes de Bahunde, Akihunde, qu'ils envient la terre qui ne leur appartient pas. C'est comme ça qu'ils les avaient chassés et suivre leurs frères vers Walikale. Alors les Banyanga ont conquis cette terre, et quand ils ont conquis cette terre, ils ont trouvé effectivement les ponts. Parce que là, il y avait un pont et les gens devraient traverser miraculeusement. Et quand ils ont rencontré ces ponts-là, ils ont dénommé ça Nduma Yakarekar. Parce que là, il y avait des mouvements de l'eau qui produisaient de grands bruits. Alors, ils ont appelé ça Nduma Yakarekar. Et c'est de là que vient le nom Walikale. Quand le blanc est arrivé, il a transformé le Nduma Yakarekar en Walikale, ne sachant pas produire certains sons en Kinyanga.
Voilà. Et Nduma Yakarekar, ça veut dire quoi?
Nduma Yakarekar, ça veut dire les ponts qui étaient les plus anciens, qui étaient déjà devinés des années avant. Et quand ils ont découvert ça, ils ont dénommé ça Nduma Yakarekar.
C'est-à-dire... Et qui a construit les ponts?
Les ponts étaient miraculeux. Et c'est naturel, c'est traditionnel. On ne sait pas vous dire qui a construit, mais les ancêtres Nyanga étaient très forts. Ils avaient déjà construit ça parce qu'ils savaient que leurs enfants allaient traverser par là.
Donc c'est un pont que les Nyanga, en venant dans leur moment, ils n'ont pas construit, mais les ponts existaient.
Ce pont-là,
miraculeux, il existe encore aujourd'hui.
Le pont a disparu avec bien entendu cette acculturation, parce qu'il fallait parler la langue avant de traverser. C'était un bois, il fallait monter sur ce bois-là en parlant la langue, et le bois vous fait traverser la rivière. Et alors quand ils ont trouvé ça, c'était miraculeux. Si vous étiez étranger, le bois, après avoir traversé la rivière, le bois devrait encore disparaître. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il parle la langue, le bois apparaît et il vous fait traverser la rivière. Voilà ce qu'on appelle un Nduma Karekar.
Vous écoutez Identité culturelle sur Radio Okapi. Selon les explications de ces deux notables, le peuple Nyanga est venu de très loin avant de s'installer dans les territoires de Walikale au Nord Kivu. Et maintenant qu'il est installé, David Muimbia Bonda nous présente son organisation coutumière.
Les Nyanga, c'est un peuple très bien organisé sur le plan administratif. Parce que le roi, le Mwami, devrait sortir d'une mumbu. C'est cette mumbu-là, et ça donnait toujours la valeur chez la femme. Donc les Nyanga considèrent la femme. Parce que le Mwami doit être né d'une mumbu, qui est une épouse rituelle, je dis bien l'épouse rituelle, du Mwami sortant. Alors, en dehors de la mumbu, il n'y a pas de Mwami chez nous. C'est pourquoi il ne faut pas parler de l'administration que non, le pouvoir chez les Nyanga va du père au fils. Non, ça va d'abord d'une mumbu et c'est la mumbu qui doit donner naissance au futur roi qui va régner. Mais autour du roi, c'est toute une grande organisation, c'est toute une administration qui est là. Il y a les Shebakungu, c'est tout un gouvernement. Il y a les Shebakungu qui est le conseiller principal du chef. Et autour du Shebakungu, il y a des Bakungu, on les appelle des conseillers, des Bakungu. Ça veut dire que ce sont des conseillers. Et ils peuvent être considérés comme des ministres en même temps. Et ce sont ces gens qui gèrent. Dans ces Bakungu-là, il y en a des gens qui ont des rôles pour seulement coiffer les rois. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit toucher la tête du roi. Et c'est ça, ce sont ces gens-là qu'on appelle les Babéi, Moubéi. Et il y en a encore des gens qu'on appelle les Basao, c'est un clan. Qui se charge de la sécurité. Ça veut dire que s'il y a un sorcier, parce que dans l'État, il y avait beaucoup de sorciers, il fallait aussi avoir une équipe de sorciers qui se charge de la protection du roi. Et ces gens-là doivent avoir toute la sorcellerie du monde pour protéger le pouvoir. C'est presque comme la police pour faire exécuter les ordres du roi. Et la suite continue. Il y en a ceux-là qui se chargent de la nourriture du chef. Et le chef a un temps pour manger. Il doit manger très tôt le matin pour qu'il y ait des problèmes qui vont venir. Il doit déjà être capable de les résoudre. Un petit ajout, c'est que le roi, chez nous on l'appelle le Mubake, son père n'était pas connu. Il n'était pas connu, donc cette moumbe doit mettre au monde avec un père qui n'est pas connu, sauf les gardiens de coutume qui doivent savoir comment ça se passe. Parce qu'on voudrait que les rois ne puissent pas avoir des penchants lorsqu'ils tranchent l'affaire et que le parent est connu, à ce moment-là, il aura des penchants. Parce que sa parole était sacrée. Et c'est pourquoi il ne fallait pas qu'il ait des familles. Donc le chef chez nous n'a pas sa famille directe. Moi, j'appartiens dans telle famille. Il appartient dans la famille de coutumiers. Et cela lui fait le caractère de son impartialité.
Ouais. Voilà. Et il n'est jamais arrivé un cas où les enfants légitimes du chef entre en conflit avec le fils de la femme là, la mumbu, qui est préparée pour régner après les rois.
Le chef qui est investi et qui est né d'une mumbu mettait aussi au monde parce qu'il devrait prendre en mariage des femmes et il est autorisé de mettre au monde. Mais ces enfants-là, nous ne pouvons pas les appeler de Mwami. Au vrai sens, ce sont des Barusi. On les appelle chez nous des Barusi. Ça veut dire qu'ils doivent gérer le petit village. Mais ils ne sont pas des Bami sacrés. Ils ne sont pas des chefs sacrés. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des cérémonies d'intronisation officielle comme on doit le faire pour un Mubake. Parce que même pour le chef qui est né d'une Mumbu, avant qu'il ne soit chef, il doit d'abord passer par une cérémonie qu'on appelle l'intronisation. Alors, les enfants issus de ce chef, ils ne peuvent pas s'y céder à ces mamies-là parce que ce sont des chefs qui gèrent des petits villages. Mais aussi, la Mumbu, après avoir mis l'enfant aîné, qui doit être un garçon, mais si elle mettait au monde une fille, à ce moment-là, c'est fini pour elle. On ne peut plus considérer la suite. C'est l'enfant, le fils aîné, qui doit être un enfant garçon. C'est celui-là qui doit devenir le chef sacré. C'est celui-là qu'on doit introniser. Mais s'il mettait des enfants après le fils aîné, ces enfants aussi deviennent des barousses comme les autres.
Et alors, s'il a mis au monde une fille, comme vous avez dit, il n'est plus considéré. On choisit une autre mumbu ou on fait quoi?
À ce moment-là, on choisit une autre mumbu. Parce que à ce moment-là, on considère que chez nous, on dit Wahona, ça veut dire que c'est passé outre. Donc les ancêtres n'ont pas accepté que le moine vienne de cette femme.
Chez les Nyanga, la famille occupe une place de choix. C'est pourquoi la communauté est mobilisée lorsque doit se former une nouvelle famille au moyen du mariage. Tout est fait pour que le nouveau foyer ait des bases solides, car coutumièrement dans cette communauté, les divorces n'est pas envisageable. Comment les mariages sont-ils donc organisés chez les Nyanga? Madame Feza Nyamaka et Bertrand Bahani nous éclairent à ces sujets.
Pour la question du mariage chez nous, chez les Nyanga, on voit le comportement de la femme dans une famille donnée. Et là, ce sont les parents qui étaient capables de décider, donc de tirer, de choisir dans quelle famille on doit tirer une fille qui sera prise en mariage un jour avec un garçon d'une autre famille. Et cela dépend du comportement de la femme là qui a été épousée là-bas. Si la femme s'est comportée, on ne veut pas tirer dans cette maison-là une fiancée.
Donc on regarde la mère, les comportements de la maman pour choisir sa fille par la suite.
Voilà, c'est ça.
La fille est déjà choisie, de quoi est constituée la dot chez les Nyanga?
Chez nous, on a l'habitude d'amener des chèvres, 12 chèvres. Et là, on va y associer des accessoires, par exemple la machette, parce qu'on a la culture de travailler le champ avec une machette. Hein? Oui. On demande du sel. On peut demander les cochons pour la jeunesse. On peut aussi demander l'habillement pour la maman, pour les parents. On peut aussi demander le pétrole, la lampe également, pour prouver qu'à suffisance, la fille est là où elle va, nécessairement. Elle doit être une lumière là où elle est allée.
Et donc, c'est l'essentiel du mariage coutumier. Quand on a amené tout ça, on peut prendre la femme.
Quand on a amené tout ça, on peut prendre la femme si les deux familles ont jugé bon et si tout ce qu'on a demandé a été donné.
Oui, par rapport à cet aspect, dans les temps, ce qui symbolisait la valeur de la dot, c'était des bracelets bien cousus, qu'on appelait les boutéas. Donc c'était des bracelets qu'on a bien arrangés, qui avaient la valeur presque d'une chèvre aujourd'hui. Et c'est ce qu'on donnait pour la belle famille, envie d'avoir la fille. Tel que la dame Nyamaka l'a dit, naturellement c'était les deux familles qui se mettaient d'accord. Ça ne se faisait pas de façon magique. On ne pouvait pas venir parce qu'on a donné la dot, puis on prend la fille comme on veut, comme on le sent aujourd'hui. Non. On doit suivre des principes. C'est par exemple, on doit envoyer un garçon accompagné de deux ou trois dames. Le garçon doit avoir une lance pour aller récupérer la fille là-bas. La lance signifie qu'elle doit la protéger jusqu'à l'amener à la maison. C'est qu'on ne doit pas le prendre en route comme ça, comme on veut. Non. Le garçon avec une lance, bien sûr, on doit se munir aussi de quelque chose pour amener la fille.
Une chèvre.
Mais dans les temps, comme il n'y avait pas de chèvre, on pouvait amener ne fût-ce qu'une antilope, voilà, quelque chose qu'on a ramassé, qu'on a tué dans la brousse. Et quand on amène, la fille doit être accompagnée au moins de ses deux grand-mères. Les deux grand-mères qui devaient accompagner la fille. Et c'est pendant cette occasion-là qu'on doit lui donner même l'éducation, comment vivre avec mari, comment ça s'est fait, même l'éducation sexuelle, ça se faisait sur les champs. C'est pas des choses qu'il n'y avait pas de cérémonie avant. C'est pendant des circonstances comme ça qu'on donnait directement l'éducation à ces jeunes filles prêtes déjà au mariage. Une fois le mariage consommé, c'est le matin qu'on doit donner maintenant tout ce qu'il y a à donner en termes de cadeaux. Ce n'est pas dans des fêtes comme nous le voyons aujourd'hui, dans une salle, on commence à donner des fêtes. Pourquoi vous vivez, pourquoi? C'est pas ça. Nous, on doit donner les cadeaux le matin si on s'est rendu compte que la fille s'est gardée encore. Si la fille a été un peu bizarre pendant sa jeunesse, on ne pouvait pas lui donner des cadeaux. Donc on trouve qu'elle n'est pas passée dans des conditions normales qui sont exigées dans la communauté. Donc elle n'était pas vierge, il faut le dire, dans ce sens-là. Donc la virilité, c'était une valeur. Avant d'être mariée, on doit se rendre compte. Et si on trouve que tu n'as pas été vierge, bon, on ne donne pas les cadeaux. On se réveille le matin, on rentre, déçu. On t'est d'ailleurs, on s'est dit, bon, tu n'as rien amené.
Chers auditeurs, Identité culturelle continue sur Radio Okapi avec aujourd'hui la découverte de la culture Nyanga. L'éducation des enfants occupe une place de choix dans cette culture, une éducation qui commence avant même la naissance de l'enfant, nous dit David Mouimbia Bunda.
Nos mamans ont des chansons, et ce sont des chansons éducatives. Pendant la grossesse, elles doivent chanter ces chansons qui essayent même d'éduquer les enfants dès la conception. L'enfant commence à sentir la nécessité de naître dans la communauté Nyang. Et l'enfant, quand il naît, il est l'enfant d'abord de la maman parce que c'est la maman qui doit éduquer l'enfant. On chante même des chants. Donc il y a des chants qu'on chante pour éduquer l'enfant. Et on commence à lui dire, tu es né dans telle famille, tu es beau. L'enfant commence à se sentir fier de naître dans une famille. Et c'est le début de l'éducation. Quand l'enfant grandit, surtout pour les enfants garçons, il doit maintenant rejoindre son papa dans le barza. C'est là que l'enfant reçoit la grande partie Rouchou. De son éducation qu'on appelle Rouchou. Et l'éducation est pratique, c'est pas théorique. Ça veut dire, quand on veut dire à l'enfant que tel est ton frère, il doit vivre ça dans la famille. Il doit voir comment on est en train d'interagir dans les actions en famille. Comment on mange ensemble. La nourriture vient d'ici, vient de là. Et l'enfant trouve que, en tout cas, ici, c'est là. Famille. Il vit la solidarité, il voit ça. S'il faut l'éduquer pour cultiver, on va avec lui au champ. C'était l'éducation intégrante. Ça veut dire l'enfant est intégré, on l'apprend et c'est pourquoi vraiment c'était très efficace. L'enfant n'était pas éduqué en dehors de son milieu habituel. Et c'est à des circonstances diverses qu'on était en train de transmettre les valeurs culturelles. À l'occasion de deuil, par exemple, on éduque l'enfant comment on se comporte à une occasion de perte d'un membre de famille. On ne doit pas être insensible quand il y a un membre de famille qui est décédé. On ne doit pas aller au travail. Et c'est à cette occasion-là qu'on doit éduquer l'enfant par rapport à la circonstance. Quand il y a, par exemple, naissance, comment on se comporte? Ça veut dire que selon la circonstance, on transmet une valeur, on transmet une connaissance selon la circonstance. Et s'il arrivait que vous posez la question à votre parent, comment on fait quand un membre est décédé? Il ne vous dira, attendez ce moment-là. Il ne doit pas vous dire quelque chose qui n'est pas lié à une circonstance. Donc, l'éducation a été vraiment intégrante et qui visait à ce que l'enfant puisse vivre la réalité de la vie et non en dehors de ça.
Mm-hmm. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait?
Aujourd'hui, on fait la même chose, pas comme dans les temps. Parce que l'éducation doit toujours commencer en famille. Et c'est pourquoi nous qui grandissons dans les villes, nous qui sommes de la diaspora, nous avons des difficultés parce que beaucoup de parents n'ont pas assez de temps de rester avec les enfants pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Même la langue, nous travaillons dans notre langue. L'enfant doit apprendre la langue à partir de la maison. Aujourd'hui, vous trouvez ici, les enfants ne connaissent pas les langues. Ils n'ont même pas besoin de connaître ça. Donc la difficulté que nous avons, c'est parce que nous pensons que l'éducation doit être donnée à l'école. Elle devrait normalement commencer à la maison. Il y en a, je dis bien, il y en a des parents encore, dans les villes surtout, qui donnent l'éducation à leurs enfants à partir de la maison. Mais en grande partie, nous avons commencé à initier maintenant ça. Nous faisons des réunions de famille. Et à partir des réunions de famille actuellement, et à partir de ces réunions, on essaye de dire aux enfants ce que nous sommes et ce que nous devons être dans notre vie normale.
Spécialement à la puberté, les jeunes garçons Nyanga ont droit à une initiation spéciale. Et les parents vivant en ville sont appelés à envoyer leurs jeunes garçons au village pour en bénéficier. Le notable Joseph Mushunganya explique.
À la circoncision, c'est aussi vraiment une grande occasion d'éducation des jeunes garçons. Il faut aller dans la brousse, non loin du village, pour l'initiation à la circoncision. Et là, on apprend. Le Mukumo, c'est vraiment une grande école d'éducation sexuelle, éducation de tout genre. Et voilà pour la formation complète et intégrante des jeunes garçons. Les femmes n'y accédaient jamais. Ce n'est pas comme la circoncision d'aujourd'hui qui se fait maintenant dans les hôpitaux, dans les dispensaires, même devant les femmes. Non, on s'amuse maintenant avec la circoncision. Ça, c'est vraiment une dégradation, une dépravation des mœurs des Banyanga.
J'en profite pour inviter tous les parents Nyanga à envoyer les enfants là-bas pour les rites de la circoncision. Parce que à partir de cette rite, c'était la rupture avec l'enfance. Pour que tu puisses quitter l'étape de l'enfance pour l'âge adulte, il fallait passer par cette cérémonie qui va clôturer. Dès que vous quittez là-bas, vous pouvez maintenant siéger avec les hommes. Ça veut dire que vous êtes maintenant intégré voilà. Parmi les hommes. C'est ça l'essence même de la cigogne. Donc nous devons envoyer les enfants là-bas.
Donc si vous avez un enfant ici à Goma qui a 3-4 ans, il n'est pas encore circoncis ou vous l'avez déjà fait parce qu'on le fait ici comme ça?
Les enfants sont circoncis parce que nous craignons aussi certaines maladies. Mais en dehors de ça, les enfants doivent toujours aller là-bas pour participer à cette cérémonie. Ce sont les conseils que nous pouvons donner.
Radio Kapi à Goma, 105.2 FM.
À présent, le notable Bertrand Bahani nous invite à table chez les Nyanga.
Vous trouvez le soir, dans le barza là-bas, le vieux papa en train de narrer, en train de donner des histoires pour rappeler aux gens ce qu'ils devaient faire. Et pendant ce temps-là, quand ils sont au barza là-bas, il y a des choses qu'ils devaient prendre au barza. Tout ne se mangeait pas là-bas. Il y a des repas que les Mounyanga ne pouvaient pas consommer en dehors de ces lieux-là. Prenons les serpents. Les serpents, ça goûte, madame. Ça goûte tellement. L'engarouma, par exemple, le moukoussa. Vous trouvez que c'est intéressant. Mais là, les femmes n'avaient pas droit à ça. Il y a également d'autres, c'est par exemple les kabanga, madame, les pangolais. Là, c'est réservé aux hommes. La poule n'était pas réservée à tout le monde. C'est ainsi que vous verrez que dans l'alimentation chez les Nyanga, il y a des aliments qui sont réservés pour les hommes et des aliments réservés pour les femmes. Et donc, c'est par exemple quelqu'un qui vient se marier, les gendres, les muhunga dans notre langue, qu'est-ce qu'ils devaient manger? Ils devaient manger les crabes et les anguilles, les mpongo et les makala. Ça, c'est pour le muhunga et la poule aujourd'hui. Et là, vous ne pouvez pas voir que la belle-mère en train de consommer les anguilles avec. Non, ça c'était largement interdit.
Et qui prépare?
Mais la belle-mère prépare, mais elle n'a pas le droit de goûter. Elle ne goûte pas, c'est pas son affaire. Mais également, il y a des repas qui étaient réservés maintenant pour les repas anciens. Pour le Mounyanga, c'était les racines. Si vous voyez l'histoire de Mounyanga, vraiment, il ne mangeait pas ce qu'on mange aujourd'hui. Les bananes, ça vient d'une exportation. Mais avant, on mangeait les fruits des arbres. On mangeait également les racines. Et, sans oublier, on devrait tuer, on devrait abattre quand même les gibiers. Voilà les repas qui étaient préférés pour le Mounyanga.
Oui, actuellement, avec la maladie à virus Ebola, on est en train de sensibiliser la population à ne pas manger la viande des brousses. Donc, vous allez vous limiter à vos racines.
Ça, c'est vrai. On ne doit pas rester à l'abri de l'actualité. L'Ebola existe, c'est un fait réel. On doit dire à notre population d'éviter tout ce qui peut être à la base de cette maladie-là.
Les notables Nyanga sont engagés à faire la promotion de leur culture. Et cela passe par les sages citations, l'une des richesses de la culture Nyanga.
Cela veut dire que si tu as trouvé la chance d'évoluer, par exemple, tu dois faire tout ton mieux pour récupérer celui qui est derrière toi. C'est-à-dire, ça nous appelle à la solidarité. C'est-à-dire que nous devons nous unir, nous devons être ensemble.
Il faut compléter par l'expression qui dit Bunaki Mama, hein, l'union fait la force. C'est ça. Lorsque nous sommes unis, nous constituons une force. Il y a aussi l'expression Ibota Iruhuka. Ibota Iruhuka, c'est-à-dire, celui qui a engendré se repose. Littéralement, c'est comme ça que cela se traduit. C'est-à-dire, quand on a des enfants, normalement, ces enfants-là prendront la relève des parents lorsqu'ils seront affaiblis avec le poids d'âge. Et donc les enfants viennent renforcer le système social au sein de la communauté. C'est ça le sens.
Ça veut dire que l'enfant chez les Nyanga, c'est quelque chose de précieux, très précieux. Mm-hmm. Alors il faut toujours les protéger, il faut toujours les soigner. Mm-hmm. Et mwana tamba.
Mais également, chez les Banyanga, nous disons, et mwana wenge urukirenga murube. Donc un enfant intelligent, il écoute même là où il y a beaucoup de bruit. C'est dans cette occasion-là qu'on dit même que un kubi, il hanwanga. C'est donc un enfant orphelin. Lui, il n'y a personne pour l'éduquer. Alors il profite de l'éducation de ses enfants qui sont choyés par leurs parents. Lui, il reste à côté en train de suivre ce qu'on donne comme valeur éducative. Et lui, il profite. Donc chez le Mounyang, il n'a rien laissé. Il a presque tout donné de telle manière que même si on est un kubi, on doit profiter de l'éducation des autres.
Je peux ajouter une autre expression qui dit « Et quand on a que vous n'avez pas, qui te voit un mot thème ?»
Un couba.
Ça veut dire que il faut parler peu. Parce que trop parler peut tuer. Ça veut dire que si tu parles et tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, il arrive des fois que tu deviens toi seul victime de ce que tu as produit. Donc il faut savoir qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je ne veux pas dire. Et puis il ne faut pas penser, Rosalie, que nous avons tout dit par rapport à notre culture, parce que nous risquons de tomber dans ce piège ici. C'est pourquoi nous disons certaines choses et nous nous réservons pour d'autres. Merci.
Mmh. C'est avec ces citations tirées de la sagesse Nyanga qui prend fin cette émission Identité culturelle. Elle était consacrée à la culture de la communauté Nyanga, l'une des communautés du Nord Kivu. Elle est basée dans les territoires de Walikale. Les notables Nyanga nous ont fait découvrir leur culture qu'ils gardent jalousement depuis des générations. Merci à Jean-Marc Matouaki pour la coordination, Marcel Mayoyo Famba, Julie Ngala et Denise Maeo pour la réalisation. Prise des sons, Marc Marofimbo. Je suis Rosalie Zawadi, je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et portez-vous bien.